Bine v-am găsit! Suntem în continuare la Sibiu, în direct de la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru. În această oră vom merge în secțiunea outdoor împreună cu Dan Barta, selecționer și coordonator al acestei secțiuni. Și vom vorbi mult franceză în această oră, pentru că mi-am permis să aduc din membrii a două companii pe care le puteți vedea pe străzile Sibiului și în diferite piețe. Alături de Dan Barta, căruia îi spun bună ziua și mulțumesc că ne-a facilitat întâlnirea de astăzi, se află Olivier Hagenloch și Laetitia Marie Demange, directori artistici ai companiei Archibald Caramontron, care nu au avut încă spectacole, dar care ne vor vorbi despre spectacolele lor, cum s-a format această companie și care este crezul lor artistic. Și aici, mai aproape de mine, Yvan Charry, actor și director al companiei du Petit Monsieur, și Amandine Barion, care este directoare artistică și regizoare a spectacolului. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous et merci d'avoir trouvé le temps de nous rendre visite aujourd'hui dans notre plateau.
Avec plaisir.
Bonjour. Voilà, bonjour. Après, on passera le micro à tout le monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait sortir un peu derrière moi. Moi, je vais essayer de faire un peu de place. O să încerc să fac un pic de loc pentru cine vrea să iasă din spatele meu, dar îl las cuvântul lui Dan Barta să ne povestească puțin despre secțiunea outdoor a festivalului.
Da, bună ziua, bonjour, voi mulțumi și în limba franceză, merci beaucoup pour nous inviter. Eu voi fi cel care voi vorbi mai puțin în franceză astăzi, pentru că ritmul festivalului și faptul că vorbim foarte mult în engleză, fiind limba oficială a festivalului engleză, mă obligă să nu mă fac de râs în fața partenerilor noștri francezi, așa că voi prefera să vorbesc în limba română.
Secțiunea outdoor are ceva absolut extraordinar și țin minte că vorbeam la precedenta noastră discuție că i-am simțit lipsa în anul pandemiei. Atunci ne-am dat seama de fapt despre forța extraordinară a acestei secțiuni, pentru că pe toată durata festivalului este, în primul rând, sunt spectacole care sunt extrem de așteptate. Pe toată durata festivalului ele se desfășoară peste tot în centrul, în centrul orașului. Orașul a știut să se doteze cu mai multe locuri care să primească aceste companii, că este piața Haberman, că este piața Mică, piața Huet, pietonala Bălcescu, piața Mare,
parcurile
promenada,
așa, promenada mai nou,
iată, da. Și marea particularitate, în primul rând, sunt spectacole gratuite pentru toată lumea. Și sunt zeci de mii de oameni care vin zi de zi peste tot în oraș, vin cu copii, vin cu mici, cu mare,
cu mic, cam cu mare,
așa se spune.
Exact, da.
Și vin nu numai din Sibiu, vin din localitățile din prejur. Deci, una din marile forțe ale festivalului este puterea de a aduce comunitatea împreună, de a aduce oamenii împreună pentru aceste spectacole și a transmite, aș spune, și celor mici frumusețea și magia teatrului de stradă.
Da, este superb că Sibiul poate găzdui în atât de multe locații aceste spectacole de stradă. Mesajul pe care artiștii, în general artiștii de stradă și nu numai, bineînțeles, dar eu mă refer în special la secțiunea outdoor, mesajul este foarte puternic și am asistat, bineînțeles că încerc să fiu prezent la fiecare spectacol, pentru că ele au mai multe reprezentații, bineînțeles, dar măcar la o reprezentație țin foarte mult să ajung, pentru că este foarte important pentru mine să văd rezultatul muncii noastre de cel puțin un an, câteodată chiar mai mulți ani, să văd cum reacționează oamenii, ce impresii au, cum văd ei toată această emulație și toată această ambianță superbă care acoperă orașul. Sibiul devine clar o scenă în aer liber și ne dorim foarte mult ca și artiștii români, pe care îi încurajăm tot mai mult să ajungă la Sibiu, și chiar am făcut anul acesta mai multe invitați în acest sens, ne dorim să fie mult mai prezenți la noi în țară și ceea ce se va întâmpla anul viitor, faptul că noi vom găzdui în timpul festivalului de anul viitor între 24-26 iunie, adunarea, întâlnirea anuală generală a rețelei Circo Strada, cea mai importantă rețea de artele spectacolului de stradă și de circ contemporan. Eu cred că este un moment foarte prielnic pentru noi ca să arătăm că putem și aici în România.
Eu cred că întâlnirea de anul viitor va stimula mult și companiile românești. Poate tragem câteva linii directoare ale programului de stradă de anul acesta.
Da, mă voi referi la început la companiile franceze, pentru că pentru mine cel puțin și pentru noi ca festival, Franța reprezintă un model în ceea ce înseamnă teatrul de stradă. Au mulți ani în spate de lucru în această zonă. Partenerii francezi de aici din România și nu numai ne susțin foarte mult în toate aceste demersuri. Institutul francez, am lucrat cu Teatroscop de asemenea. Avem foarte multă susținere și asta înseamnă enorm. O cincime din programul outdoor de anul acesta asta reprezintă companiile franceze. Am aici 8 nume de companii: TransExpress, Cielixir, Sea de Petit Monsieur, Cisalatay, Sikervan, Paris Benares, Recupertu și, bineînțeles, Archibald Caramantran. Festivalul acoperă, ca de obicei, așa cum ai spus, multe zone din centrul istoric al orașului în special, și programul este gândit în așa fel încât publicul să poată parcurge un traseu foarte divers, pentru că totdeauna încercăm să aducem spectacole cât mai diverse care să placă publicului larg. Încercăm să aducem spectacole mici pe de-o parte, care se pretează foarte bine pentru piața Haberman, piața Huet, câteodată și în piața mică, în parcurile din zona la promenada Sibiu, și mergem încet, încet spre aceste parade de stradă, spectacole de nivel mai mare, și încheiem cu acele spectacole de mari dimensiuni din piața mare care fac deliciul publicului de fiecare dată. Aș menționa faptul că acum pe final de festival, în ultimul weekend, în cel al doilea weekend, acoperim Piața Mare cu trei spectacole deosebite, zic eu. Fiecare în felul lui are ceva interesant. Este o companie din Italia, mâine urmează francezii de la Cielixir, sâmbătă, și încheiem cu spaniolii de la Charcha, cu un spectacol care duce spre zona de război versus pace, și cu siguranță mesajul final este acela de pace.
E o organizare extrem de minuțioasă, pentru că nu sunt numai companii care au un spectacol într-un loc fix. Există deambulări da. pe pietonala Bălcescu și nu numai. Lucrul acesta trebuie făcut pentru siguranța, în oferind siguranța tuturor, atât a artiștilor, cât și a spectatorilor. Și pentru artiști poate fi foarte complicat uneori, pentru că oamenii vor să
ajungă cât mai aproape de ei, să-i fotografieze, să-i îmbrățișeze. Chiar ne place să oferim și să vedem momentele de final de spectacol, când toată lumea e în jurul artiștilor. Ivan deja a avut parte de astfel de momente cu toți copiii în jurul lui. Este un efort fantastic în spate, este o muncă incredibilă de echipă. Nu suntem mulți, dar totdeauna faptul că ne adunăm, știm cum să lucrăm, ne simțim unii pe alții. În cadrul echipei avem mulți ani în spate, și faptul că vin voluntarii, 500 de voluntari exact înainte, cu o săptămână de festival, după ce au fost trainuiți, bineînțeles, câteva luni în urmă, vin să ne ajute în acest efort de a arăta publicului ce înseamnă FITS.
Si vous me permettez, je vais commencer la discussion en français avec Yvan, parce que j'ai déjà vu un de ses spectacles, la Piazza Mica. Alors, j'aurais jamais imaginé de voir quelqu'un faire autant de choses avec une petite tente, mais ça m'a fait bien rigoler, parce que c'est la fameuse histoire de, pardonnez-moi, mais c'est de la tente Décathlon qui s'ouvre comme ça, hop, juste en la jetant en l'air, et que personne ne sait la replier. Et vous partez de ça.
Voilà, absolument, c'est 2 secondes pour l'ouvrir et 45 minutes pour la replier, quoi.
Et voilà, vous avez fait un spectacle là-dessus.
C'est un spectacle qu'on a créé ensemble avec ma metteur en scène Amandine Barion, qui m'a dit un jour, ça serait bien. On avait vu un court métrage de Chaplin où il a un transat en toile. Ça dure une minute et elle m'a dit ça serait bien de trouver quelque chose qui ressemble à ça, sans se prendre pour Charlie Chaplin, mais faire ça avec quelque chose de moderne. Et pendant quasiment 2 ans, on a cherché quel objet pourrait s'adapter à ça. Et un jour, elle m'a dit ah ouais, la tente Décathlon. J'ai dit mais non, c'est ridicule, ça, c'est nul comme idée. Mais d'abord, j'ai râlé.
Si, c'est après... tellement vrai. Non seulement ouais. c'est ridicule, mais c'est ça qui est drôle, parce que c'est tellement vrai.
Ouais. Après, on a travaillé 1 an et demi là-dessus, pour trouver tout ce qui était possible de faire, quel type de tente. Donc, on a essayé tous les modèles de tente de chez Decathlon, pour voir comment ça bouge, comment ça se plie, comment ça réagit. Et après, on a construit le spectacle comme ça.
Voilà. Mais moi, je voudrais, avant de parler du spectacle, je voulais vous connaître un peu mieux, comprendre comment cette compagnie s'est formée et comment quelqu'un qui a fait des études de droit est arrivé à faire des spectacles de rue.
Alors, là, j'étais encore très jeune. J'étais en 3e année de droit et je suis parti du jour au lendemain dans un cirque. Après, j'ai essayé de monter des spectacles dans des cirques, j'ai essayé d'être jongleur, je voulais être clown, mais j'ai...
Mais pourquoi ? Pourquoi vous avez claqué la porte ?
Ça, c'est une bonne question. Parce que je pense que je m'ennuyais fortement à la fac de droit. Et un jour, je me dis non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Je vais pas pouvoir tenir toute ma vie comme ça. Donc, du jour au lendemain, j'ai appelé mes parents, j'ai dit je pars de la fac. Il y a eu un grand silence au téléphone. Et le lendemain, j'étais dans un cirque.
Et vous connaissez déjà le milieu circassien ou pas du tout ?
Pas du tout.
Et pourquoi le cirque ?
Parce que je voulais être clown, mais je savais pas où aller. Oui. Donc, je dis ah, bah, je vais dans un cirque, super. Et j'ai rien appris. J'ai appris à monter les chapiteaux,
oui,
mais pas le clown, jusqu'à voilà. ce que je commence à travailler avec Amandine. Et là, on a réussi à monter un spectacle, 2 puis 3.
Alors, vous êtes originaire d'où ? Je vous ai mis un micro.
Je suis originaire du sud de la France.
Oui.
Yvan est d'Alsace et on s'est rencontrés dans un stage...
De cirque.
De danse.
De danse contemporaine.
Non, il y avait toutes les danses. Moi, je pense que j'ai la réponse à votre question oui. par rapport à Yvan, puisque j'ai la même réponse. C'est pour ça qu'on fait du théâtre de rue. Parce que le théâtre de rue est souvent l'endroit où on attrape la première graine d'envie de faire de la même chose. Et c'est aussi pour ça qu'on fait vraiment, nous, notre cœur de métier, c'est le théâtre de rue, même si on joue aussi en théâtre, on joue en école, on joue sur des scènes de cabaret. Mais la base de notre métier, c'est le théâtre de rue, parce que c'est l'endroit où, pour la première fois, on se rend compte que c'est possible, c'est chouette, c'est fun, et c'est de la culture, mais sans le côté qui peut être un peu austère dans les théâtres. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait le Festival d'Aurillac, qui est un gros festival... de théâtre de rue en France, le plus gros. J'avais 16 ans et je pense que c'est comme si j'avais été contaminée et que les plantes ont commencé à pousser sans que je m'en rende compte, puisque moi, j'ai une maîtrise de philo aussi. Et,
une maîtrise de philosophie sur le thème du clown.
Du clown, voilà. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai pas osé me dire que c'était possible et c'est en rencontrant Yvan qu'on a pu croiser nos 2 plantes qui avaient poussé et qu'on a pu faire ce métier.
Donc ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ?
30 ans.
Exact.
Voilà. Bon, c'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire. Moi, j'adore. En plus, j'adore le théâtre de rue parce que c'est un des rares lieux où on peut rencontrer toutes les couches de la société. Autant dans un théâtre, je ne sais pas quelle est la statistique en Roumanie, mais en France, il y a 5% des gens qui vont au théâtre en salle parce qu'il faut rentrer dans un théâtre. Dans la rue, on rencontre tout le monde. Et dans la rue aussi, on a la satisfaction de voir si ça plaît ou pas. Si ça plaît pas, les gens partent ou ne restent pas.
Alors, il y a une spécificité. Mais déjà, en général, pour les théâtres de rue, ce sont des spectacles non-verbaux. Donc, mais vous embarquez avec vous le spectateur. Et j'ai vu des extraits d'autres spectacles. Par exemple, celui avec la cabine téléphonique. D'ailleurs, il y a une belle blague sur votre site, je ne sais pas si c'est une anecdote réelle, avec le douanier suisse.
C'est vrai, tout est vrai, tout est vrai.
Oui, donc un jour, vous étiez avec la cabine.
On était à la cabine, avec la cabine à la frontière suisse, et le douanier a soulevé la bâche et a regardé, nous a demandé si on pouvait la brancher sur le réseau suisse.
Sur le réseau téléphonique
suisse. Sur le réseau téléphonique suisse. Donc, on a été obligé de rester très sérieux en lui disant que non, il n'y avait aucun souci. Et il nous a dit que dans ce cas-là, on pouvait rentrer en Suisse.
Oui, mais ils sont, c'est des coquins. Les...
Mais avec une cabine téléphonique, on a eu beaucoup, beaucoup d'anecdotes dans tous les pays. Ouais.
Dans tous les pays.
Alors, expliquez-nous quel type, comment se construisent vos spectacles et quelle est la graine, en fait. Vous partez d'un objet...
On part
du quotidien, d'une idée.
On part d'une idée. La cabine, c'était une idée d'Yvan. La cabine téléphonique, c'était quelque chose d'important entre nous puisqu'on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc la cabine téléphonique, c'était une idée d'Yvan. Les tentes, c'est une idée de moi. Et ensuite, on fait beaucoup d'improvisation, beaucoup, 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 beaucoup. Mais vraiment des tonnes. Et ensuite, moi, je trie. J'enlève celles qui sont trop simples. Et je structure. Donc c'est comme si je faisais un squelette, en fait. Et ensuite, Yvan joue. Et là, au contact du public, il rajoute des improvisations avec ce qui se passe avec les enfants, les gens. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si on mettait les muscles autour du squelette. Et je continue à dire, celle-là, on la continue, celle-là, non, celle-là, on va plus loin, et ainsi de suite. Et on essaye de tout le temps faire ça pour que ce soit tout le temps frais pour Yvan, qui joue, et tout le temps en accord avec comment les gens ont évolué au fil du temps.
Voilà, on va parler un peu plus tard de comment on construit une dramaturgie et quelle est la relation avec le public qui vous entoure. Mais j'aimerais bien aussi donner la parole à Olivier et à Laetitia pour parler de la compagnie Archibald Caramantran. Est-ce que c'est un vrai nom d'une personne ou c'est plutôt autre chose?
Alors, le Caramantran, c'est un personnage populaire assez connu dans le sud-est de la France. Ça vient de carême entrant, c'est-à-dire c'est le mardi gras. Il y a le mardi gras qui est le jour du carnaval. Le lendemain, c'est le mercredi des cendres. Et le carême entrant, c'est un personnage qu'on brûle traditionnellement en Provence, qu'on peut appeler Monsieur Hiver dans d'autres plus au nord du pays. Donc carême entrant s'écrit avec un E, carême entrant. Et ça symbolise tout ce qu'on veut effacer de l'année précédente. Donc on le juge. Donc c'est un personnage, traditionnellement, c'était un personnage de paille, une espèce d'une fantoche de paille qu'on amenait sur la place publique et on le jugeait, on l'acculait de tous les maux de l'année, des mauvaises récoltes, des impôts, etc. C'était aussi le moment où le peuple pouvait faire des mini-révolutions et communiquer aux puissances de la ville ou du village ce qui ne convenait pas. Donc c'est un moment assez important, c'est-à-dire la marionnette, moi je suis marionnettiste, et la marionnette sert souvent en politique, hein, pour pouvoir communiquer, comme le guignol lyonnais, la marionnette de guignol qui peut communiquer des idées assez révolutionnaires. Et donc ce caramantran, voilà, c'est une espèce de monstre comme ça qu'on va brûler et avec ça effacer tous les maux. Pour pouvoir repartir sur une bonne base pour la nouvelle année.
C'est un peu le Burning Man, mais à la française.
Voilà. Et donc, du coup, pour moi, ça avait du sens. Donc, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis originaire d'une famille de théâtre de rue. Mon oncle est un des précurseurs du théâtre de rue, puisque c'est un des fondateurs de Délices Dada. Moi j'ai grandi à Aurillac, à Chalon, je connais ça depuis ma plus tendre enfance. Et mon beau-père, le mari de ma mère, c'est le SAMU, section artisticale musicale d'urgence. Donc c'est des vieux de la vieille qui ont créé tout cet univers du théâtre de rue. J'ai connu Gilles et Brigitte du Transexpress tout petit aussi, voilà. Donc pour moi, c'était naturel de se maquiller, de chanter, de jouer de la musique et d'aller improviser dans la rue, voilà. J'ai essayé de faire autre chose quand j'ai commencé des études. Alors, c'est des études de plasticien, hein. Je suis peintre et sculpteur, dessinateur. Mais la rue me manquait, le spectacle, le contact, voilà. J'aime bien aussi faire des spectacles en salle pour le confort que ça apporte. Les lumières, le son, le silence. En rue, on est toujours confronté aux intempéries, le vent, la pluie, etc. Donc il y a un confort en intérieur, mais c'est vrai, comme vous disiez, le contact de tous les publics, pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment, en salle, je vais quand même m'ennuyer, et je préfère être dans la rue au contact. Et on a prévu un spectacle, on a écrit une dramaturgie, on a quelque chose qui est déjà construit, mais il y a forcément un accident, il y a forcément quelque chose qui va se passer, qui est inattendu, et qui va nous demander de faire preuve de créativité, d'être génieux et d'être en relation, quoi. Donc c'est pour moi l'essentiel, c'est... donc, la compagnie, elle a 20 ans, moi je fais des marionnettes géantes depuis 1998, on a joué dans énormément de pays, et on a la chance d'avoir ces grandes marionnettes, hein, qui font 4 à 5 mètres de haut, avec des très grands bras, et donc d'être assez intrusif, c'est-à-dire qu'on peut toucher les gens, on va au contact, donc on crée forcément des situations de rencontres et de happening public, quoi. Donc on l'a vérifié dans le monde entier, et on se régale, hein, de faire ça. On est très heureux de venir le faire ici à Sibiu cette année.
Est-ce que c'est une grande compagnie? Vous êtes combien
On est une vingtaine, on va dire. Ouais. C'est une compagnie qui est assez importante, dans le sens où on a à peu près un spectacle par semaine, hein, grosso modo. On joue 80 fois dans l'année. On a des doublons, souvent on a des équipes, puisqu'on a une quarantaine de marionnettes géantes. Hein. On a un grand atelier, on est soutenu et on est invité, on est la compagnie résidente de Carpentras, qui est une ville à côté d'Avignon. Avignon, assez connue pour le théâtre en salle, et Carpentras qui a développé le théâtre de rue avec un festival de théâtre de rue d'hiver qui s'appelle Les Noëls Insolites. Et qui nous a invités à nous installer dans un très grand hangar où on peut construire, stocker et répéter. Et donc, on a là pas mal de spectacles. Hein. En tout, on a combien de spectacles? Une dizaine, une douzaine?
Déjà, vous avez des spectacles fixes, des spectacles déambulatoires, comme on appelle. Donc les marionnettes géantes qui se baladent comme ça en ville. Et puis aussi, la danse aérienne. Donc ça, c'est plutôt... circassien, je crois, non? C'est un héritage un peu, non, je pense?
Alors, donc ça c'est... en fait, je co-dirige la compagnie avec mon épouse, qui est Marie-Martine Robles, qui n'est pas là aujourd'hui, puisque le spectacle qu'on propose est sans danse aérienne. Là, c'est une déambulation. Et en fait, c'est en 2017, on s'est associés. Elle est professeure de danse classique. Donc elle vient des ballets et elle fait de la danse sur différents supports, donc sur les murs avec rebond, en tissu, en corde, en filet et dans une très très grande structure en aluminium aussi qu'on appelle le zig. Donc elle a aussi pratiques autour de la danse.
Danse contemporaine et cirque contemporain un peu,
voilà. Donc, ça mélange un moins, peu. Moins cirque que danse, plus... c'est vraiment danse.
Danse.
Et, ouais. Et moi j'ai mes marionnettes, avec les grandes marionnettes, c'est aussi de la danse. Donc on construit des ballets de danse et nos spectacles fixes sont très très axés sur le mouvement. Hein. C'est beaucoup, alors il y a des histoires, il y a de la pantomime de marionnettes, c'est comme un petit castelet de marionnettes traditionnelles, sauf que c'est géant. Donc il y a des histoires racontées. Généralement, ce n'est pas verbal, hein, c'est de la gestuelle. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chorégraphies et de danse. Là, ce qu'on va présenter ici, c'est pratiquement une grande chorégraphie de 45 minutes, quoi. Et donc, Marie-Martine, elle a... Moi, j'ai vraiment un peu en charge ce qui est plastique, les tableaux, la création du tableau pictural. Et Marie, elle s'occupe de le mettre en scène et de le mettre en mouvement. Mmh. Voilà. Donc voilà, il se trouve qu'elle est pas là aujourd'hui. Elle regrette. Elle aurait voulu faire le voyage.
Ça m'aurait plu discuter avec elle parce oui. que je trouve que ce mélange des arts est extrêmement intéressant et c'est ça ce que vous faites en fait. Ça apporte énormément de poésie dans nos vies. Mais moi, j'affectionne beaucoup les spectacles de rue. Est-ce que Je vais laisser un peu Laetitia nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait au sein de la compagnie et comment on finance en fait, parce que là on rentre dans beaucoup de décors, en fait beaucoup de il y a beaucoup de matériel là-dedans, il faut construire ces marionnettes, il faut se déplacer, c'est compliqué.
Voilà, donc moi j'ai rejoint la compagnie il y a 4 ans, auparavant j'étais programmatrice dans le nord de la France. Et j'ai rencontré la compagnie dans le nord de la France. Justement, ils étaient venus en résidence de création. Ils avaient trouvé du coup des financements chez moi, parce que j'avais eu des financements institutionnels. Et du coup, nous, c'était l'année de la marionnette. On s'est rencontrés comme ça. Et puis, j'ai déménagé. Maintenant, on travaille ensemble. Et moi, mon job, en gros, c'est de chercher des financements, chercher des possibilités de programmation en France et à l'international. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de tourner le plus possible dans des situations différentes et de participer à un maximum de festivals, de rencontrer des publics différents. Et donc voilà, les financements, c'est de monter aussi beaucoup de dossiers administratifs. Moi, je vends un petit peu moins du rêve, sauf quand j'ai les programmateurs au téléphone. mais voilà.
Si je peux me permettre, juste oui, parce que nous, on a beaucoup de demandes pour de l'animation, de 2-3 marionnettes qui vont déambuler. Et puis, on aime jouer les spectacles. C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est vraiment comme De La Fontaine ou Petite Fleur. C'est aussi des spectacles en fixe avec justement du son, de la lumière. Souvent, c'est de nuit, avec le tissu. Et c'est écrit. Pour nous, c'est un autre challenge parce que c'est répété, c'est écrit. Il y a beaucoup de temps de recherche. Comme vous disiez aussi, on fait 4 spectacles et puis finalement on n'en garde que 45 minutes. Et ça, c'est plus difficile à vendre. Et Laetitia fait un gros travail pour diffuser et pour rendre possible. Parce que c'est assez simple d'aller vendre 3 marionnettes pour faire le marché de Noël. C'est plus compliqué. Elle nous a, par exemple, fait voyager beaucoup en Chine. À Hong Kong,
via l'Institut français, par exemple, des financements.
Et ça, c'est un dossier qui est très lourd, qui prend presque un an à mettre en place, avec différents financements, etc. Mais voilà, il y a 12 artistes en déplacement, du matériel, etc. Donc ça, c'est une partie du travail qui vend du rêve.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de marionnettes géantes. Il y a plusieurs compagnies qui font de la marionnette géante, mais ce qui différencie Archibald Caramantran, c'est justement le fait d'allier la musique live, l'aérien et la marionnette géante. C'est un rapport assez unique et ça permet aussi d'appuyer là-dessus pour quand on souhaite vendre des spectacles, quoi.
Alors, je parlais de la poésie, mais la poésie existe même dans la présentation du spectacle que vous avez ramené ici à Sibiu. Ça s'intitule « Le bal des poissons, batifolant dans les flots ». Et si vous me permettez, je vais lire cette petite présentation. « Dans certaines conditions de lumière et de pression apparaissent les poissons. Aujourd'hui, c'est marée haute. Maquereaux, sardines, merlans et morues, rascasses, dorades, barbeaux et brochets, tous se sont donné rendez-vous pour le grand bal des poissons. » Rumba, bossa, foxtrot et calypso, mambo, tango, salsa et cha-cha-cha, ça frétille de la nageoire et ça chaloupe de la coupe. Du clapotis dans le gramophone, nos palpitants sont métronomes, tourne pas en rond dans ton bocal, il est l'heure de faire un scandale. N'aie pas peur, jette-toi à l'eau et viens guincher dans les flots. Aujourd'hui, nos pensées ont des nageoires et nos sourires sont des hameçons. Très joli.
Alors,
parlons-nous des poissons. C'est des gros poissons énormes. Ça va plaire aux enfants. C'est extraordinaire.
Voilà, c'est le spectacle de demain. Hein.
Ah, pardon.
Aujourd'hui, on joue Congo Massa, qui est donc les animaux africains. Madame girafe, monsieur zèbre, etc. On en parlera.
Il doit y avoir une photo, une poésie là-bas aussi. Allez-y.
Et le bal des poissons, c'est un spectacle qu'on. Donc, on avait déjà 3 poissons, on en a créé 3 supplémentaires. Et c'est un spectacle qui est assez neuf, puisqu'on l'a sorti au Carnaval de Nice en février dernier. Et il y a 3 couples de poissons. Monsieur Merlan, Madame Morue, Cachalot et le gobie. Le gobie, c'est un petit poisson bien moche de la Méditerranée.
Ah non, il est moche.
Et puis Rosine et Barbeau. Voilà. Donc on a 3 couples de poissons qui. C'est de la danse. Hein. Pour le coup, ils déambulent, ils dansent tous ensemble et ils dansent 2 par 2. C'est un bal. Et donc, il y a 6 musiciens qui les accompagnent dans des musiques quand même plutôt Amérique du Sud, voilà, comme c'est décrit, cumbia, salsa, voilà. Donc il y a un côté spectacle où on les voit en chorégraphie à observer, c'est une danse, et puis il y a un côté interaction où on va vraiment au contact des gens et si tout se passe bien, on finit en bal populaire, quoi.
Et Congo Massa, bal poussière, groove de la brousse.
Alors c'est deux spectacles qui sont un peu similaires avec deux ambiances différentes. Donc le bal des poissons et Congo Massa, c'est le bal des poissons, c'est sur un bal, on va dire un bal d'Amérique du Sud, et le Congo Massa, c'est groove de la brousse, musique africaine, avec donc Madame Girafe, Monsieur Zèbre, Rhinocéros, Hippopotame, Singe. Ils ont tous des petits noms, hein, vous pouvez trouver ça sur notre site. Le singe, c'est Aristote. Voilà. Et là, bah, le même principe, on arrive, on est en spectaculaire, plus ou un petit peu plus, comme c'est des animaux sauvages, il y a un petit côté qui peut faire un peu peur au début quand ils arrivent, etc. Et puis petit à petit, on s'apprivoise et on se rend compte que c'est des sapeurs et des danseurs africains. Et là, du coup, on part sur des danses plus africaines. Avec aussi, si tout se passe bien, le bal poussière, ce qu'on appelle bal poussière. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, puisqu'on a une compagnie qui est basée au Burkina Faso, une compagnie amie, cousine, enfin, qu'on a créée en 2001, qui est installée au Burkina. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, dans notre groupe, il y a beaucoup d'Africains aussi. Là, il y a des Ivoiriens qui sont là avec nous. Et donc le bal poussière, c'est vraiment le bal populaire traditionnel. On dit poussière parce que on danse pieds nus dans la poussière et que ça secoue et ça fait monter toute la poussière sur les danseurs.
Donc beaucoup de chorégraphie aussi, je
et
pense.
De danse.
Et
voilà.
De danse, ouais. Alors je voulais revenir, Yvan, sur vous, sur la compagnie du petit monsieur. C'est vous le petit monsieur?
Je suis la partie visible de la compagnie du petit monsieur, oui.
D'accord. Voilà. Et vous travaillez, vous êtes toujours tout seul, en fait. Vos spectacles, c'est uniquement sur vous ou il y a quelqu'un d'autre qui...
Non, pour l'instant, les spectacles qu'on a créés, c'est toujours des spectacles des solos.
Oui.
Et qu'on a un autre mode de fonctionnement, parce qu'on est beaucoup plus petit que Caramantran. Nous, on n'a jamais été subventionné et on n'a jamais demandé de subvention par choix. Parce qu'on est deux et qu'on aime bien tout faire nous-mêmes en direct. Donc on a juste une administratrice qui nous aide pour les contrats, etc. Mais on aime bien tout faire en direct pour savoir pour qui on joue, comment on joue, et aussi pour pouvoir adapter le spectacle au pays ou au public ou au lieu dans lequel on joue.
Grâce à un statut français qui est un statut de l'intermittence qui aide les artistes en France.
Qui est un statut. Pas un statut très confortable,
finalement,
spectacle.
Si, parce qu'il y a beaucoup les plasticiens, les photographes, les dessinateurs, les écrivains n'ont pas ce statut et finalement, on a quand même un statut qui est quand même privilégié.
Alors, ce qui m'intéresse chez vous, c'est comment vous construisez, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation. Pendant un spectacle, vous sentez la salle, si je peux dire comme ça, autour de vous, en fait, le spectateur. Et vos spectacles se basent beaucoup sur l'interaction avec les spectateurs, non ? Enfin, s'il n'y a personne qui vous regarde, si vous n'accrochez pas le regard, non ? Je pense qu'il doit y avoir un petit moment.
Alors,
compliqué.
En fait, oui. Mais parce qu'on a des spectacles qui sont travaillés, en fait, on travaille pratiquement seconde à seconde. Tout ce que vous avez vu est entièrement travaillé. Et donc, ça permet à Yvan d'être extrêmement réactif à ce qui se passe, puisque à chaque moment, il peut partir en improvisation et se rattraper tout de suite et revenir tout de suite. Donc, plus le spectacle est travaillé, plus il est propice à l'improvisation. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est le cas. Un spectacle où les marches, en gros, seraient trop grandes, ça laisserait trop de trous. Le comédien, enfin le clown, ne pourrait pas se rattraper autant. Donc Yvan peut être complètement disponible à ce qui se passe, parce que si jamais l'improvisation ne marche pas, ou qu'il se passe quelque chose, ou que l'enfant s'en va, ce qui peut arriver, hop, il revient au spectacle, et ainsi de suite.
Dan voulait intervenir.
C'était fascinant de regarder hier la réaction des enfants. C'était incroyable.
C'était magnifique.
C'était un dialogue vraiment entre eux et Ivan, oui. Et ils ont été fascinés. Ils ont entré dans le jeu. Ça, c'est
normalement, on a un assistant et hier, il y en avait quatre, je crois, qui ont salué à la fin. Tellement les enfants sont venus
donc
aider.
Des participants, enfin, voilà. Des gens, des volontaires.
C'était totalement différent du spectacle que vous avez vu avant-hier.
D'accord.
Voilà, hier, j'étais. Ils sont venus m'expliquer.
Hier, c'était Piazza Habermann, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
D'accord. Et un autre type d'espace. Voilà. Donc, vous jonglez aussi par rapport.
Déjà, le jeu n'est pas le même parce que c'était plus petit que la fois où vous m'aviez vu.
Oui.
Et là, j'avais deux petits qui étaient super énervé parce que je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait. Donc il paraît de plus en plus fort parce que s'il parle plus fort, je comprends mieux.
Et vous avez dit qu'aujourd'hui, il sera quelques phrases en roumain ou...
Oui.
Ah, ok.
Oui. Ah. Pour un spectacle muet, c'est pratique de parler roumain.
Voilà. Donc est-ce qu'il y a la durée du spectacle aussi, vous pouvez l'aménager par rapport à votre public ou
c'est... Elle est variable aussi en fonction des improvisations.
D'accord.
Donc ça, c'est il y a, disons, il y a peut-être quoi, 10 minutes, plus ou moins...
5.
Ouais. Voilà. Mais voilà. Ça dépend, moi, on ne sait jamais ce qui va se passer. Là, hier soir, je ne pensais pas du tout que j'en ai 4 qui allaient venir m'aider, m'expliquer comment on plie la tente, que ce n'était pas comme ça, qu'il ne fallait pas que
ils
je touche la boîte.
Venus, ils sont carrément venus,
Oui, il y a un petit qui est venu après le spectacle, avec son papa, qui parlait anglais.
Et qui vous a expliqué.
Il m'a dit, il ne fallait pas toucher la boîte, c'est marqué dessus. Il m'a dit ça en roumain.
Oui, parce que vous arrivez, voilà. En fait, le spectacle commence comme ça. Vous êtes, êtes sur la place. Vous arrivez avec une énorme boîte.
Non, la boîte est déjà là.
Et la boîte est déjà
là. Moi, je veux faire un discours et il y a quelque chose qui me dérange.
Parce que la boîte est fermée.
Voilà, donc il faut pousser la boîte.
Ouais.
Et en poussant la boîte, elle s'ouvre.
Et boum,
les tentes sortent.
Et les tentes sortent.
Voilà, et après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, et là, ça peut prendre du temps.
Est-ce que dans d'autres pays, vous avez différents types d'interactions avec le public par rapport au pays dans lequel vous vous trouvez?
Alors, globalement, en Europe occidentale, c'est à peu près les mêmes. Au Japon, c'est un peu différent. Parce qu'au Japon, on ne se moque pas d'un adulte en cravate.
Qui rate.
Qui rate, parce que vous faites très avocat. Voilà,
c'est ça. Et moi, c'est une succession d'échecs.
Et donc, pour le Japon, c'est compliqué?
Donc pour eux, c'est quelque chose d'insupportable.
On joue parce qu'ils sont très gentils. Ils voient bien qu'on n'a pas les mêmes codes. Mais ça ne les fait pas beaucoup rire.
Voilà. C'est comme si vous voyez du théâtre no. Ah. On se dit, ah ouais, il y a quelque chose. On ne comprend pas forcément. Mais on comprend qu'il y a un travail. Et pareil, quand ils me regardent, ils sont presque gênés de... Enfin, ils me regardent et ils baissent la tête quand je n'arrive pas à faire une chose, quoi.
Mm-hmm.
Mais c'était très chouette quand même.
Mais sinon, c'était chouette.
Voilà.
Et la dramaturgie, est-ce que vous écrivez énormément? Vous écrivez énormément les textes avant? Comment ça se passe?
Alors, il n'y a pas de texte.
Oui, ben, je veux dire...
Structure énormément. Je structure beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'il y ait un déroulement, un, logique, et deux, qu'il y ait toujours des surprises. Donc on va pas dire, mais au bout de 20 minutes, il y a une surprise qui relance le spectacle, voilà, pour la jusqu'à la fin. Donc moi j'écris et je structure beaucoup, et j'écris à partir de ce qu'Yvan improvise avec les gens.
Bon, on peut dire un petit peu qu'une des surprises, c'est que en fait cette tente se transforme en monstre.
Aussi, ouais.
En monstre marin ou pas, ça c'est dépend. Ça.
Après, à vous d'interpréter le monstre comme vous voulez.
Exactement. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Et ça, c'est vraiment une des choses importantes dans le clown, dans la vie du clown. C'est qu'en général, le quotidien devient assez vite fantasmagorique, poétique. Et le clown amène la magie dans le quotidien. Et ça, pour nous, c'est important.
Quelle relation vous avez, vous, avec le public? Parce que quand vous déambulez comme ça dans la rue, j'imagine que les enfants essayent de venir toucher, s'approcher. C'est dangereux aussi pour les artistes, parfois, j'imagine, non? Il faut faire attention à plein de choses.
Non, c'est pas très dangereux parce qu'elles sont assez impressionnantes, nos marionnettes, comme elles sont très grandes. Le premier rapport, c'est garder un petit peu de distance. Et c'est nous qui sommes un peu intrusifs et qui allons contact et chercher. Après, ça dépend vraiment du public, du pays dans lequel on se trouve. Alors oui, je te rejoins sur le fait que ça se ressemble un peu tout en Europe, mais au Maghreb, ça peut être très différent. En Afrique aussi, alors en Afrique noire, la première fois qu'on est sorti avec des marionnettes, les gens ont fui, hein, sont partis en courant, en renversant les cochons, les vélos, on a retrouvé qu'un parterre de tongs. C'était trop. Voilà,
trop empreint de légende, peut-être. C'était,
ils ont eu très peur. Ouais. Et puis, alors, en Afrique noire aussi, quand il y a un mouvement de panique, tout le monde se met à courir, même s'ils ne savent pas pourquoi, mais il y a un danger, donc ils partaient. Après, petit à petit, on s'est fait connaître et on est allé. Maintenant ça, on arrive à faire des très beaux spectacles dans le stade de Ouagadougou. Il y a du monde, il n'y a pas de souci. Mais les premières expériences dans les villages étaient très impressionnantes. En Asie, on a beaucoup de téléphones portables face à nous. C'est-à-dire que les gens aiment beaucoup le spectacle, mais à travers le téléphone. Donc on se retrouve avec sur le site, là, j'ai mis quelques photos où on voit un public rempli, que des téléphones.
Ils sont très connectés en Asie, mais il y a aussi le fait qu'il y a aussi une certaine timidité. Par exemple, on avait un spectacle de La Fontaine et qui se terminait sur La Vie en Rose, où les marionnettes dansaient la valse avec le public et nous ont dit « mais jamais vous arriverez à les faire danser ». Et finalement, tout le monde a dansé, c'était assez magique. Et ça, on a joué 9 jours consécutifs et il y a des gens qui sont revenus tous les jours. Voir, parce qu'il y a un vrai contact qui s'est créé, c'était assez magique finalement.
Voilà, donc c'est assez différent. Parfois ça peut être compliqué, c'est-à-dire quand on est avec des enfants un peu excités et qu'on reste trop longtemps en place. Au bout d'un moment, ils ont compris le subterfuge, ils ont compris parce qu'on est assez vulnérable sous la marionnette, puisqu'on a les pieds, les bras pris, etc. C'est pour ça qu'il y a toujours pour 2 marionnettes, il y a une personne en extérieur qui va prendre soin des marionnettistes qui sont dessous, parce que ça peut arriver d'avoir des enfants qui sont un petit peu trop excités et qui viennent jouer. Et pas que des enfants, d'ailleurs. On a eu en Géorgie, on était dans un petit village en Géorgie, et là, très impressionnant, hein, les gens étaient avec des chevaux, des pistolets dans les ceinturons, etc. Et c'était, on a eu un petit peu peur de la réaction. Hein.
Ne-a mai rămas fix un minut pentru că va trebui să dăm legătura pentru știri. Dan?
Très vite. Je suis très heureux de vous avoir ici. Il faut bloquer vous parce que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup en dehors et c'était très important de vous bloquer avant la année. Et merci aussi aux agences italiennes ICP International Operate qui vous facilitent votre.
Alors, merci à vous, merci d'être venu aujourd'hui. Congo Massa aujourd'hui sur la piétonale Nicolae Bălcescu à 19h et 21h15. Vous avez quand vos prochains.
19h à 21h ce soir.
Où ça? Piazza Mica? Piazza
non.
Haberman
Huech.
Ah, Piazza Huech. Ah, encore un troisième endroit. Ouais, ouais, extraordinaire. Ouais. Là-bas, ça va vous plaire. Et puis demain, les poissons, la parade des poissons.
Demain soir, donc la parade des poissons, c'est des marionnettes qui sont lumineuses. Donc ça, c'est un autre son.
C'est une poésie voilà. Totale. Ça va être super. Merci infiniment et puis bonne continuation.
Avec grand plaisir.
Bon
festival. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.
Punem punct aici programului de astăzi. Vă invit să reveniți mâine pe frecvență, începând cu ora 11:15 pentru o nouă ediție a emisiunii în direct de la Sibiu.